Ce psaume 32, un psaume parmi d'autres, vous ai-je dit, a néanmoins la dignité d'avoir été cité par Paul dans son épître aux Romains comme une illustration la plus parfaite du salut par la grâce, et nous allons voir pourquoi. Cela dit, ce psaume commence par un titre, trop malheureusement souvent oublié dans certaines traductions, ou parfois mis de telle sorte qu'on a l'impression que c'est le titre d'un éditeur humain, alors que ce titre est le début du psaume lui-même. Ce titre traduit différemment parce que c'est très difficile à traduire. En général, on dit de David, poème. Parce qu'il y a là un mot qu'on ne sait pas traduire, ce qui fait que certaines traductions le laissent en mettant masquille de David. En fait, pour un hébraïsant, la chose n'est pas très compliquée. Parce que David est un mot propre, mais c'est aussi un mot commun qui veut dire l'amour. Monsieur David, c'est que Monsieur Amour, si vous voulez, le roi aimé en quelque sorte. Et quand un masquille, ce n'est pas un poème, ça ne désigne jamais cela dans la Bible, mais ça vient d'un verbe qui veut dire essayer de comprendre, de discerner. Et d'ailleurs, la traduction grecque des Septante dans l'Antiquité avait mis intelligence de David. Et il faudrait traduire en français courant, et donc de l'amour pour le discernement. C'est-à-dire, on a déjà dans les deux premiers mots du psaume tout l'essentiel, qui sont le discernement, l'intelligence, qui est le masquille, donc ce qu'on traduit par poème, et l'amour, qui est le mot David. Et finalement, amour et intelligence, ça me convient assez, parce que je crois que ce sont les deux choses les plus essentielles de notre foi ou de notre religion, effectivement, l'intelligence et l'amour. Et puis le psaume, enfin, après ce joli titre, va commencer par une béatitude. Heureux. Il y a là deux fois heureux. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est pour ça également que j'ai choisi ce psaume, parce qu'on aime qu'on nous dise heureux. Et là, ceux qui sont déclarés heureux, eh bien, on ne dit pas heureux ceux qui ont le cœur pur, on ne dit pas heureux ceux qui sont justes, on ne dit pas heureux ceux qui ont la foi, heureux ceux qui sont fidèles, mais on dit heureux ceux dont la rébellion est portée et le péché couvert, c'est-à-dire heureux ceux qui sont pardonnés. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous voyez, on est justement tout, sauf dans une religion de l'œuvre de l'homme, en disant « si vous voulez être heureux, il faut que vous ayez une vie droite, une vie juste, une vie fidèle ». Mais on dit simplement le bonheur, c'est de se savoir pardonner. Le bonheur, c'est de se savoir accepter. Et ça n'est pas évident parce qu'il y a tout un travail à faire là-dedans, d'apprendre à être capable de s'assumer, d'apprendre à se savoir accepter et aimer. Et pour cela, il y a là tout un processus qui est donné. On nous dit plus précisément... Heureux celui dont la rébellion est portée et le péché couvert. Alors, cette idée de quelque chose de porté et de couvert, porté, si ça me fait penser à un thème de la foi chrétienne, qui est Jésus qui porte le péché du monde. Et cela permet peut-être de comprendre ce que veut dire ce pilier fondamental de la foi chrétienne, Christ, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Ce n'est pas qu'il le porte sur ses épaules comme un fardeau, mais qu'il nous en décharge en quelque sorte. C'est-à-dire que Jésus arrive et s'il nous sauve, c'est qu'il nous dit « toute cette charge énorme de culpabilité, de honte, de peur, de crainte qu'il y a en toi, de péché, je la soulève et je la pose plus loin. » C'est-à-dire que je t'en libère en quelque sorte. Et donc nous n'avons plus à porter la charge de notre imperfection, de nos échecs, de nos erreurs, de notre peine ou de toute chose. Et il y a quelqu'un qui nous la porte, c'est Dieu lui-même, qui nous rend léger, en quelque sorte. Et puis ce péché, il est couvert, dont le péché, il est caché ou couvert. Et là aussi, ça nous ramène à un vieux thème de la foi chrétienne et juive, donc, qui est, vous savez, l'histoire du péché originel. Parce que Adam et Ève se reconnaissent pécheurs, et donc leur première idée, c'est de dire « nous allons masquer notre péché ». Donc ils se font des pagnes avec des feuilles de figuier, dit-on aujourd'hui. Et puis Dieu dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas à toi de cacher ton propre péché. Enlève-moi ces feuilles de figuier. Et Dieu leur fait des pagnes de cuir. C'est-à-dire que l'erreur, c'est de croire que l'on pourrait se cacher son péché à soi-même. Autrement dit, se sentir libéré de son péché, ce n'est pas se dire en soi-même, bon, allez, je n'en tiens pas compte ou j'oublie que je suis pécheur, mais c'est bien de reconnaître qu'on est pécheur et d'accepter que ce pardon nous soit donné d'ailleurs et d'un autre, c'est-à-dire de Dieu. Et ça, on le voit plus loin, puisque j'anticipe, mais au verset 5, le psalmiste dira, « Mon péché, je ne l'ai pas caché. » C'est-à-dire lui-même, il sait qu'il est pécheur. Il sait qu'il est imparfait et il l'assume tout à fait, mais il accepte aussi que Dieu lui-même le libère et cache ce péché et l'en délivre. Alors le fait qu'il soit couvert, ça aussi ça m'intéresse comme thème parce qu'il faut faire attention aux mots en tant que tels et les prendre au sérieux, dirais-je. Dieu n'enlève pas le péché, mais il le cache. C'est-à-dire que le péché est toujours là, mais il n'est plus au premier plan. Ce n'est pas la première chose qui saute aux yeux quand on se regarde soi-même ou quand on regarde l'autre. Le péché, il est couvert. Autrement dit, Dieu ne peut pas faire en sorte que nous n'ayons pas de péché. Bien sûr, nous avons des péchés, bien sûr, nous avons des torts, bien sûr, nous avons des échecs, mais Dieu peut faire en sorte que ces péchés soient couverts, c'est-à-dire qu'ils soient mis à l'écart et qu'ils ne soient plus au premier plan ni pris en compte. Et donc voilà ce premier heureux, heureux celui dont la rébellion est portée. Le deuxième heureux, il est intéressant parce que si vous regardez de près, c'est pour ça que je vous ai mis une traduction littérale. Dans le deuxième heureux, il est écrit « Heureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas une faute ». Avant, c'était « Heureux celui ». Ce coup-ci, c'est « Heureux l'homme ». C'est-à-dire qu'on fait un pas de plus, je dirais, vers la pleine humanité. En quelque sorte. Au début, on dit heureux celui, c'est-à-dire que oui, c'est bien de se sentir pardonné, mais on ne dit pas par qui. Heureux celui dont le péché n'est pas imputé, parce que c'est plutôt une chance qu'on ne vous remette pas devant les yeux vos erreurs. Mais là, c'est heureux l'homme, c'est-à-dire que je peux devenir pleinement humain et heureux lorsque je comprends que c'est Dieu lui-même qui pardonne. C'est-à-dire que peut-être par rapport aux autres, je suis pécheur, mais devant Dieu, c'est-à-dire devant l'Éternel, devant l'Absolu, cet Éternel et cet Absolu a jugé bon de ne pas me considérer comme coupable. Alors, heureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas une faute, et c'est-à-dire qu'il n'en compte pas, et c'est plus profond que de dire que, je dirais qu'on n'en parle plus, il ne comptabilise pas les fautes. Et là, par cette affirmation, en effet, je vous disais que ces deux versets ont été cités par Paul et sont considérés comme une des expressions les plus parfaites du salut par la grâce. Vous voyez bien que là encore, Dieu n'est pas celui qui comptabilise les fautes, contrairement à la plupart des religions primitives, ou pas primitives d'ailleurs, qui font croire aux fidèles que Dieu juge et que Dieu comptabilise le bien et le mal pour rétribuer ensuite dans un enfer ou dans un paradis le bien et le mal que vous auriez fait. Là, l'expression est extraordinaire. On dit « l'Éternel ne compte pas les fautes », c'est-à-dire Dieu ne comptabilise pas. Et ensuite, « et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie », ça c'est intéressant parce que on aurait pu dire, on retombe dans les œuvres, heureux celui qui n'a pas de tromperie. Non, parce qu'il peut toujours y avoir de la tromperie dans nos vies. Et évidemment que nous mentons et que nous trompons sans cesse. Mais on dit heureux celui qui n'a pas de tromperie, non pas en lui, mais dans son esprit. C'est-à-dire encore, belle expression du salut par la foi, il ne s'agit pas des œuvres, de ce que nous faisons, si nous avons menti ou trompé ou pas, mais l'important c'est de ne pas avoir de tromperie dans son esprit, c'est-à-dire d'avoir dans le fond de son cœur, dans sa raison d'être, parce que l'esprit c'est le souffle de vie, c'est ce qui nous anime. Heureux celui qui n'est pas animé par la simple volonté de tromper. Voilà. Et si au fond de mon cœur, simplement, il y a le souffle de la vérité, peut-être que je vais tromper ici ou là, malgré moi, dirais-je. Mais l'important, c'est de ne pas vivre de tromperie et de ne pas alimenter son être de tromperie, de ne pas vivre que pour cela. L'important, c'est donc bien la conviction, c'est l'esprit dans lequel on veut vivre, c'est la foi, autrement dit, plus que les œuvres elles-mêmes. Ensuite, au verset 3, nous avons une expression de ce que peut ressentir le pécheur quand il dit « Oui, je me taisais, mes os s'usaient dans mon rugissement tout le jour. » Je me taisais. Oui, ça, c'est, je crois que c'est la pire faute pour le psaume et d'une façon générale, se taire. Alors certains disent que le psalmiste au départ se taisait, c'est-à-dire qu'il refusait de confesser son péché, autrement dit, il refusait de dire à Dieu « je suis pécheur », mais je pense que c'est plus que cela. Le vrai péché, c'est de ne pas parler, c'est de se taire. Parce que ne pas parler, c'est couper la communication, ne rien dire, c'est éloigner l'autre, se renfermer sur soi-même, et c'est extrêmement dangereux. Certaines traductions, pas celles que je vous ai données, mais certaines traductions, plutôt que de mettre « je me taisais », ont mis « j'étais sourd ». C'est curieux, hein ? Il y a un glissement, parce qu'il y a des sourds-muets, j'imagine, mais certaines traductions disent « j'étais sourd ». C'est-à-dire considèrent que le principal péché, c'est de ne pas entendre et de ne pas écouter. Mais ça n'est pas faire justice au texte. Parce que justement, là encore, ce texte a une conception extraordinairement moderne, je dirais, de la foi et de la justice, où on ne dit pas « le péché, c'est de ne pas écouter », c'est-à-dire d'être sourd. Le péché, ce serait de ne pas écouter Dieu, de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter le catéchisme, de ne pas écouter le pasteur ou le prêtre ou le pape ou qui vous voulez, ou la Bible. Mais là, on dit « le péché, c'est de se taire », c'est-à-dire de ne pas parler, de ne pas rentrer en dialogue et de ne pas exprimer ce que l'on ressent. C'est la seule faute. On ne dit pas qu'il faille écouter ou pas la leçon, mais tout ce qu'on vous demande, c'est parler. Dites ce que vous avez sur le cœur. Exprimez, discutez. Et la prière n'est rien d'autre. La prière, c'est de parler à Dieu, de confesser son péché ou de dire ses joies, ses peines ou ses craintes. Mais c'est ça qui nous donne la vie, c'est quand on parle. Et il n'y a pas que les prêtres et les pasteurs qui le disent. C'est aussi ce que disent tous les psychologues, des gens qui se font payer beaucoup plus cher que moi pour écouter les autres, en disant « la parole est un acte qui libère ». Et quand on parle, ça fait du bien. Et combien de personnes qui viennent me voir en tant que pasteur et à qui je ne dis rien mais que j'écoute, sortent en disant « Monsieur le pasteur, merci de m'avoir écouté ». Voilà. Parce qu'on a besoin de parler. Et donc, il faut parler. Et si on se tait, eh bien, les os s'usent. On garde au fond de soi-même tous les sentiments négatifs, tous les troubles et les problèmes qui nous détruisent de l'intérieur. Et l'expression est belle. Effectivement, c'est bien cela. Je me taisais et mes os s'usaient à l'intérieur de moi-même. Les os s'usent. On perd sa substance. Contrairement au juste dont parle l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4 et qui dit « Même si mon être extérieur se détruit, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. Parce que là, mes os ne s'usent pas, mais je me renouvelle et je rajeunis et je grandis parce que je parle. Parce que je parle à Dieu et parce que je parle à mon prochain pour lui dire mon amour ou pour lui demander pardon ou pour lui rendre grâce. » Et donc, mes os s'usaient dans mon rugissement tous les jours. Et j'aime ce rugissement, là encore. Ce qui est intéressant, c'est que ce rugissement, ce n'est pas une parole articulée, une sorte de cri. Certaines traductions mettent dans mes gémissements. Et en fait, j'ai regardé de près, ce n'est pas un gémissement, c'est un rugissement. Le mot utilisé là désigne normalement le rugissement du lion. Or, le lion, dans la Bible, c'est un animal qui détruit, qui arrache et qui dégrade. Donc non, ce n'est pas un gémissement de celui qui pleurniche, mais celui qui ne parle pas, il finit par rugir, c'est-à-dire que faute de parler, il aboie. Et il finit par dire des mots ou des paroles qui n'ont pas de sens, mais qui font du mal, c'est-à-dire qui détruisent, qui tuent. Des paroles négatives, des paroles qui peuvent finir par être des paroles de haine, en quelque sorte. Et ça, c'est très grave. Quand on veut se taire, on finit par jouer au lion qui déchire. Alors donc oui, il faut parler, verbaliser, sinon on risque de transformer même son mal-être dans une agressivité morbide vis-à-vis des autres. Le verset 4 est en général lu dans les traductions habituelles comme une continuation de cette expression négative de la situation de péché. Quand effectivement il dit « Nuit et jour, ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était que sécheresse comme celle de l'été ». Et après avoir bien réfléchi, je pense que tout m'indique que ce verset n'est pas du tout négatif, mais exprime plutôt quelque chose de positif. Parce que d'abord, ce psaume est un psaume de béatitude. Heureux celui qui. Et donc, on ne va pas, quand on commence en disant heureux, quand on dit la merveille de l'intelligence et de l'amour, aller exprimer, ce sentiment effroyable que certains veulent nous imposer dans ce verset 4 par leur traduction. Cela dit, les deux sont possibles et je ne peux pas non plus contester que notre vie est ambiguë et parfois les psaumes expriment joliment le sentiment terrible qui peut animer notre cœur. Mais néanmoins, je voudrais le lire positivement. Et quand on dit que la main de Dieu pèse sur nous, ce n'est pas qu'il appuie pour en rajouter encore. Non seulement je suis coupable et en plus Dieu m'enfonce la tête sous l'eau, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas une main pesante. C'est même quand je suis dans la difficulté, j'ai la main de Dieu qui s'appuie sur mon épaule. Et ça, j'aime ça. C'est-à-dire que Dieu ne dit peut-être rien, mais il est là comme celui qui m'appuie, met la main sur moi pour me protéger. Et effectivement, c'est une belle chose. Ce n'est pas qu'il appuie, mais il donne un poids. Et ce poids n'est pas, je ne pense pas que ce soit un poids négatif. Le poids, le mot utilisé là est le même mot qui désigne la gloire. Vous savez, la gloire de Dieu, ça veut dire le poids de Dieu. C'est quelque chose qui a du poids, c'est-à-dire de l'importance. Et donc moi qui suis comme un fétu de paille, prêt à être envolé, balayé par la première épreuve, par le premier doute, par la première culpabilité, Dieu met la main sur moi pour me stabiliser, pour me donner du poids. Il met la main sur moi pour que je ne m'envole pas, autrement dit. Et donc j'aime cette main qui effectivement pèse sur moi, mais pas d'une façon négative, au contraire, cette main qui me donne de la force et de la stabilisation. Et donc ta main pèse, je dirais, gentiment sur moi, et cela c'est jour et nuit. Là encore, expression merveilleuse de la grâce, c'est pas simplement le jour, quand j'agis, quand je travaille, quand je fais le bien, c'est même la nuit. Alors la nuit, qu'est-ce soit le moment de la prière, de l'étude ou simplement le moment où je suis inconscient, jour et nuit, que j'en ai conscience ou pas, Dieu pose la main sur mon épaule et il me stabilise. Et puis, dit-il encore, ma moelle était changée dans les sécheresses de l'été. Alors, la moelle, elle est changée, là encore, on peut l'entendre au sens positif. Elle n'était pas dégradée, mais elle est changée. C'est-à-dire que la moelle, c'est ce qu'il y a au fond de moi-même, le cœur de moi-même. Certaines traductions disent ma vigueur, ma moelle, le cœur, ma moelle épinière, je ne sais pas. En tout cas, c'est le cœur de moi-même, il est changé. Et je crois que ça peut être changé positivement. On a le même verbe en Nombre 3:2 où on dit « Dieu changera la malédiction en bénédiction ». Donc oui, Dieu, voilà, pose sa main sur moi et il change mon cœur. Il transforme ma moelle, c'est-à-dire le centre même de mon être, il le transforme de malédiction en bénédiction, et il le renouvelle. Il le renouvelle dans les chaleurs de l'été, et là encore, ce n'est pas forcément négatif, parce que ces chaleurs, cette sécheresse, la première occurrence dans la Bible, c'est juste après le déluge, quand on dit « le soleil avait séché la terre ». C'est-à-dire que ce n'est pas une mauvaise sécheresse, mais c'est la sécheresse qui suit l'inondation. Quand tout a été entraîné par le torrent, Dieu arrive et nous donne la sécheresse. C'est-à-dire il remet le sec après l'inondation, après la tornade et après le déluge. Et cette mention du déluge ne me semble pas idiote, puisque on trouve le déluge juste après, au verset 6, si vous regardez bien, on va le voir arriver. Hein. Et puis quant à l'été, dont il est question là, les sécheresses de l'été, tu as changé ma moelle dans les sécheresses de l'été, l'été est désigné là par plusieurs mots pour dire l'été en hébreu, par kaïts, qui veut dire la période de fructification, la période où l'herbe donne du fruit. C'est-à-dire que justement, c'est cela. Il y a eu ces grandes inondations, et maintenant Dieu m'apporte dans la période où enfin les choses peuvent fructifier. Et donc, ce n'est pas un été qui détruit tout et qui brûle tout, c'est l'été de la moisson, l'été où l'herbe se transforme en gerbe et en grappe qui pourront donner des choses extraordinaires. Et on en arrive à ce petit mot, malheureusement aussi oublié dans certaines traductions, dont celle, la traduction écuménique, c'est moi qui l'ai rajoutée, pause. Ces imbéciles de commentateurs disent tous que c'était une indication chorégraphique à l'époque où les psaumes étaient chantés pour passer d'une strophe à l'autre, taratata. Pause, c'est un mot extrêmement fort, c'est peut-être un des mots les plus importants de tout le psaume. Pause. Peut-être faudrait-il que quand on lit le psaume, on nous dit pause, c'est-à-dire là, vous arrêtez. Silence et méditez cela. Écoutez, parce qu'il faut écouter et parfois aussi méditer dans le silence. Ou alors c'est la pause que Dieu nous offre, justement. La pause que Dieu nous offre. Dieu me donne la pause. Ça fait du bien. Il me permet de me poser, de trouver la tranquillité après tous ces combats, tous ces luttes, tous ces orages, ces déluges. Dieu sèche, mais finalement me donne la chose la plus essentielle qui est la pause, la paix. Voilà. Et j'ai cherché encore de plus près la pause, Selah en hébreu, ça vient de Selah qui veut dire mettre en balance, mépriser, mettre en perspective. Peut-être que c'est ça la pause que me donne aussi ma foi, c'est qu'elle me permet de mettre les choses en perspective et de pouvoir trouver le repos et la paix parce que je sais mettre les choses à leur juste valeur. Et donc au verset 5, le psalmiste dit qu'ainsi il a verbalisé son péché. « Mon péché, je te l'ai fait connaître et ma faute, je ne l'ai pas couvert. Je vous en ai déjà parlé. » Tout ça, c'est très bien. Et j'ai dit, je confesse mes rébellions à l'Éternel. Et ça, c'est une bonne chose parce que, après avoir exprimé tout ce pardon de Dieu et tous ces dons de Dieu, vous voyez que se sentir pardonné ne dispense pas de reconnaître sa faute. L'homme est pardonné, certes, mais il reste pécheur. Et justement, le pardon de Dieu ne consiste pas à dire je fais comme si je n'avais plus de péché, je me considère comme parfait. Je suis pardonné, mais je reste pécheur. Et c'est ça le grand paradoxe de l'homme. Tout pécheur et tout homme est à la fois pécheur et pardonné. Tout en étant pécheur, il est pardonné, mais tout en étant pardonné, il reste pécheur. Et c'est ça. Et verset 6, donc, c'est ça. Et en plus de cela, tout fidèle prie vers toi au temps de trouver. Ça, c'est un peu confus. Tout fidèle prie. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est bien de prier. Mais qu'est-ce que ce temps de trouver? Tout fidèle prie au temps. Alors, les traductions mettent au temps convenable. On ne sait pas quand est le temps convenable de prier. C'est toujours temps de prier. Prier sans cesse, nous dit Paul. Mais le texte nous dit au temps trouver. Et j'aime cette idée de trouver, parce que trouver qui ou trouver quoi, eh bien, là je vous laisse faire travailler votre imagination. Est-ce que c'est le temps trouvé pour prier, c'est-à-dire trouver du temps pour prier? Oui, il faut le trouver. Ou alors c'est le prier, c'est le temps trouvé par Dieu qui m'accueille et qui vient vers moi, et c'est quand Dieu me dit son pardon qu'il est temps que je prie pour le recevoir. Est-ce que ce temps, c'est le temps de la rencontre entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire le temps de trouver l'autre, de trouver Dieu, d'être trouvé par Dieu? C'est un peu tout cela sans doute. En tout cas, c'est le temps juste. Et il y a un temps. Il y a là dans la traduction grecque des Septante un mot qui a plu énormément aux théologiens du XXe siècle et que encore aujourd'hui mes collègues développent à l'infini, et je ne voudrais pas le faire parce que ça m'agace un peu. Ce mot, c'est le kairos. Kairos, en grec, c'est le temps, mais ce n'est pas le temps qui passe et qu'on mesure, c'est le juste temps de la moisson. C'est-à-dire qu'il y a un temps juste, un temps productif, un temps qui produit du bon et non pas un temps qui use, qui détruit et qui fatigue. Et donc, c'est justement cela que donne la prière, c'est de transformer ce temps de destruction en temps de création, de trouver le temps opportun. Le temps pour trouver quelque chose, pour trouver l'autre, pour se trouver soi-même peut-être. Et ce temps pour trouver, même le débordement des grandes eaux ne l'atteigne pas. Je vous l'avais prédit, ce débordement des grandes eaux, c'est une allusion au déluge. Et là encore, on est dans la théologie de la grâce, parce que dans l'Ancienne Alliance, le déluge détruit tous les méchants. Et là, même le pécheur n'est pas noyé par le déluge. Il n'y a plus de jugement, mais simplement le pardon. « Toi, dit-il au verset 7, tu es une cachette pour moi, une cache. De l'angoisse, tu me gardes. Des cris de délivrance, tu m'environnes. » L'angoisse, ça c'est un mot que j'aime parce que, curieusement, dans toutes les langues que je connais, l'angoisse veut dire la même chose. En français, « angustus », ça vient du latin angustus qui veut dire un lieu serré. En allemand, angst, c'est aussi d'être écrasé, resserré. Et en hébreu également, l'angoisse, c'est le sentiment d'être écrasé dans un lieu serré. Et Dieu me préserve de l'angoisse, c'est-à-dire qu'il m'ouvre des horizons. Mais il ne me préserve pas des gens méchants. Les méchants et le mal et les épreuves sont toujours là. Dieu n'est pas un gris-gris ou une patte de lapin qui m'éviterait les problèmes, mais il m'enlève l'angoisse du méchant. C'est-à-dire, il me donne un lieu où on peut être à l'abri, où les méchants ne pourront pas me trouver. C'est une protection non pas qui agit sur les événements, mais sur moi-même, qui me permet de survivre là-dedans. Et puis ces cris de victoire qui sont là ne sont plus ces rugissements destructeurs, mais ce sont des cris de joie, des cris de victoire et des cris de vainqueur. Encore une pause. Et après cette pause, c'est Dieu qui parle et qui dit « Je te fais discerner ». Ah tiens, discerner, c'est le même verbe qu'on avait dans le premier mot, vous savez, « masquil » de David, c'est « sakal ».« Je te fais discerner, je te donne l'intelligence ». Voilà ce que Dieu nous donne, c'est important ça. L'intelligence des mots, l'intelligence des événements, l'intelligence des autres. Et je t'élève dans ce chemin où tu vas. Et là encore, comment français élever peut être compris dans tous les sens du terme, dans le sens où l'on élève un enfant, c'est-à-dire que Dieu nous élève. Il nous fait grandir, si vous voulez, voilà. Et je crois qu'on peut grandir en Dieu. Où il nous élève comme on élève un bâtiment, c'est-à-dire qu'il nous construit en quelque sorte. Ou encore ce verbe, il nous élève, est le même verbe qui est utilisé d'habitude pour dire lancer une flèche. C'est comme ça. Parce que quand on élève un bâtiment, on lui donne de l'indépendance. Quand on élève un enfant, on lui donne la possibilité de partir. Et quand on jette une flèche, eh bien, elle suit son chemin et c'est elle qui suit sa propre route. C'est-à-dire que Dieu nous instruit, mais en même temps, il nous donne notre indépendance. Voilà, il nous donne notre indépendance. Et c'est le propre de la bonne éducation, de ne pas garder sous sa coupe en dépendance, mais de laisser de conduire à l'autonomie. De même, le psaume nous dit que Dieu nous conseille. Il n'ordonne pas, il ne commande pas, il conseille. C'est-à-dire qu'il nous laisse libres. « Mais, dit le psaume, mon œil est sur toi. » Ce regard bienveillant de Dieu, qui veut dire que son pardon n'est pas une sorte d'indifférence, comme si Dieu disait « mais je m'en fiche de ton péché, on n'en parle pas, tu ne m'intéresses pas. » Ce n'est pas de l'indifférence. Et la liberté qu'il nous donne ne veut pas dire qu'il nous laisserait tomber, mais Dieu toujours garde un œil sur nous, et l'œil ne se maintient pas ficelé, c'est un œil de bienveillance. Et vous remarquerez que là encore, tout est à l'initiative de Dieu. Hein. L'homme là-dedans n'a aucun autre mérite que d'avoir parlé. Et puis au verset 9, « Ne soyez pas comme le cheval ou le mulet qui ne comprennent rien, dans un mors ou un bride, où une bride se trouve toute leur parure. » Le cheval, c'est l'animal guerrier. c'est-à-dire que c'est l'animal qu'utilisaient même les rois pour aller combattre. Quand ils allaient au marché, ils montaient sur un âne, pas sur un cheval. Et donc ne soyez pas comme le cheval, l'animal de guerre, de lutte et de combat. Ne soyez pas non plus comme le mulet. Le mulet, c'est l'animal impur, divisé, c'est un mélange de races, bien sûr, parce qu'il n'est pas clair, il n'est pas franc. Et donc ce que nous invite le psaume à être, en réponse à cette grâce, c'est de dire de ne pas être dans le rapport de force, ni dans la confusion du n'importe quoi, mais comprends et réfléchis, pour avoir l'intelligence des événements et des personnes. Et ne pas être bridé par différents moyens, le mort et la bride, s'ils sont des deux choses qu'on met dans la bouche des chevaux, c'est-à-dire une façon de brider la parole, bien sûr, là encore. Et là, c'est embêtant, cela veut dire que la religion que préconise ce psaume 32 et qui me convient tout à fait, c'est de dire qu'on ne doit pas être dans une logique de la coercition. Et la religion ne doit pas, je dirais, imposer de force des conduites aux gens. Voilà. Donc vous n'êtes pas des mulets et des chevaux que l'on essayerait de brider par le mort, par la bride ou par d'autres choses pour imposer une conduite. Ça n'est pas cela. Ni un mort pour vous empêcher de parler. Mais on a le droit de parler et on a le droit de choisir sa propre voie. Et donc on n'est pas entravé. Le cheval, lui, il obéit, il va où on lui impose, il n'est pas libre. Il est muselé par ce qu'on lui met dans sa bouche. Et il est important que l'homme puisse discerner et que ses paroles ne soient pas verrouillées. Et puis c'est encore contre la mauvaise religion qui considère que justement cette obéissance servile à des lois rigides religieuses serait une parure, c'est-à-dire que la gloire de notre religion serait notre pratique. Eh bien non, parce que quand on se glorifie de sa pratique ou de son obéissance, de sa soumission, eh bien, nous dit le psaume, finalement, on s'éloigne de Dieu. C'est ça. Et qui ne s'approche pas de toi en parlant à Dieu. Au verset 10, là j'ai eu plus de mal, je suis obligé d'être un peu malhonnête, mais ça fait 3000 ans que les Juifs le sont sur ce sujet, parce que le verset 10 semble rétributif. En effet, beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de bienveillance. Et donc ça casse toute cette logique de la grâce du psaume qui irait à l'encontre de cela. Et ce qui fait, vous disais-je, que depuis 3000 ans, les Juifs ont eu pardon, l'idée de déplacer la virgule et de mettre les choses autrement. Et de dire « nombreuses douleurs pour le méchant et pour celui en qui se confie l'Éternel, virgule, mais la grâce l'environne. » C'est-à-dire que les douleurs, ce n'est pas que pour le méchant, mes petits amis. Même le juste, il a des douleurs. Et oui, c'est bien ça la réalité. Et Israël le sait. Bien sûr, Israël, qui se considérait comme juste, il en a eu des douleurs. Et je ne parle pas simplement de la Shoah ou d'autre chose. La déportation en Égypte, où dès, on le voit en Exode 3, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance, donc la douleur de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs et je connais ses douleurs. » Et donc oui, même le juste a des douleurs, et ça on le sait. Et donc il n'y a pas de rétribution ou de karma, comme disent mes enfants, qui ferait que le méchant serait puni et le juste ne le serait pas. Et donc oui, voilà, il y a des douleurs pour les bons comme pour les méchants. Soyez avertis. Mais la grâce l'environne. Alors environne qui ? Ben, soit vous êtes gentil et vous dites ben, ça environne tout le monde, le méchant comme le pas méchant, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous êtes environné de la grâce, parce que la grâce par définition est un cadeau universel. Ou alors vous dites, bon, d'après le texte, celui qui est le plus près de la grâce, c'est quand même celui qui se confie en l'Éternel. Le méchant, il est quelques mots avant. Et donc celui qui se confie en l'Éternel est plus proche de la grâce. Mais en tout cas, la grâce, elle est bien offerte à tous, comme malheureusement aussi les douleurs. Et finalement, la conclusion de ce psaume, « Réjouissez-vous en l'Éternel, exultez, ô juste, poussez des cris de joie, vous tous les droits de cœur. » les droits de cœur. Ça m'intéresse, cette expression. Parce que c'est probablement la formulation qu'on trouvait aussi dans les béatitudes de Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est-à-dire qu'on trouve un des premiers mots du psaume, c'est heureux, et on trouve à la fin ces droits de cœur, qui a été traduit en grec par le cœur pur. Alors, qu'est-ce que ces cœurs purs ou ces droits de cœur? Le cœur n'est pas en hébreu le siège du sentiment ni du courage, mais le cœur, c'est le fondement de l'être, le centre décisionnel d'un être, autrement dit. Comme on dirait en français, le cœur du dispositif, ou alors le cœur du problème. Et donc le cœur, c'est ce qu'il y a au plus profond de moi, ce qui me détermine en quelque sorte, et ce qui oriente mes propres choix. Et ceux qui ont le cœur droit, ce sont les hommes qui font un choix droit dans leur vie. C'est-à-dire qu'il est important que le centre décisionnel de notre vie soit aligné sur Dieu. Ce qui rejoint le salut par la foi, parce que je fais ce que je peux, mais l'important c'est qu'au fond de moi-même, eh bien, mon cœur soit droit. C'est-à-dire que j'essaye de viser la bonne direction et de me mettre, de viser dans le sens de la volonté ou des bons conseils de Dieu. Et finalement, voyez la conclusion de ce psaume 32, c'est cela, « Réjouissez-vous dans l'Éternel ». Vous les cœurs qui choisissez dans le sens de la vie. Parce qu'il y a dans la vie une vraie possibilité de bonheur, de liberté et de joie. Mais il ne faut pas la chercher en nous-mêmes ou dans les événements. La source, elle est définitivement en Dieu. La source se trouve dans ce Dieu d'amour, ce Dieu de vie qui jamais ne s'éloigne de nous. Et qui en même temps jamais ne s'impose à nous. Il est là, source fraîche, disponible, éternelle, offerte à vous, voyageurs sur terre, et il se donne à vous qui lui parlez par vos propres mots. Puisez avec joie aux eaux du salut et aux eaux de vie et de repos que Dieu vous donne. Amen.